l'état qui est non restauré, notamment au moment de la musique, un peu au début et surtout à la fin. C'est un peu déformé, ça fait un peu waouh. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps et malheureusement, c'est la seule copie disponible que nous avons trouvée avec des sous-titres français en plus. Donc ce film Nuncial Escape d'André de Tos est donc une rareté. Je ne vais pas en dire grand-chose parce que je l'ai laissé à Bertrand Tavernier qui nous a fait le grand honneur d'être là ce soir. L'amitié qui connaît et qui aime beaucoup, je crois, André de Tos. Et qui connaît bien non seulement cette œuvre, mais aussi l'histoire de ce cinéaste, et aussi pourquoi il a fait ce film en particulier, qui est donc un film de 44 et qui est très précurseur aussi dans sa thématique de ce qui va se passer finalement aussi après la guerre, ce qui est assez étonnant. Il y a des scènes, j'ai vu regarder le film aussi, je l'avais jamais vu, et vous allez voir, il y a des scènes assez étonnantes. Notamment d'un appel à la révolte d'un rabbin et autres, qu'on voit quand même très très rarement dans ce type de film, et particulièrement à cette époque-là. Donc Bertrand Tavernier, je ne le présenterai pas, vous savez que c'est un grand connaisseur du cinéma américain. On présente une exposition ici, donc consacrée entre autres à John Ford et George Stevens, qu'il a connu de près aussi. Donc on est très très heureux de l'accueillir ce soir et qu'il nous ait accepté de faire partie de ce cycle, c'est très, très important aussi pour nous. Merci beaucoup.
Merci. En plus, l'exposition est extraordinaire. Vraiment, la jambe sort, elle est absolument elle est très, très bouleversante. Et bouleversante aussi par le fait que je connaissais surtout Ford et Fuller, et surtout Fuller, que je retrouve là tellement présent dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est une exposition magistrale. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup André de Tos. C'était un ami très cher, très, très, très cher. On a lié ensemble, je pense, une amitié qui a duré pas mal de temps. On s'était rencontrés d'abord dans les années 60, quand 60-70, en travaillant sur des films, quand on rencontrait un metteur en scène qui nous intéressait, on l'interrogeait, et j'avais fait un petit interview de lui qui avait paru dans les Cahiers du cinéma, qui était vraiment intéressant, parce que c'est quelqu'un dont on est... Moi, j'aimais 5 ou 6 de ses films très, très forts, dont un que j'avais découvert grâce à Jean-Pierre Melville, où on avait été le voir 3 soirs de suite, parce que Melville en était un fanatique de ce film, et d'ailleurs, il avait un peu, il s'en était inspiré de certaines scènes pour Le Deuxième Souffle, et notamment la fin du Deuxième Souffle est absolument la fin du film d'André de Tos. Et la première chose que avait dit André de Tos, c'est que son cinéaste favori était Satyajit Vitray. C'était ce qu'on s'y attendait absolument pas. Et donc c'était vraiment. Et donc ça, c'était la première rencontre. La deuxième après, ça avait été au moment d'Autour de minuit, où il était sorti du film. Il m'avait serré dans ses bras. Il m'avait dit, Bertrand, vous m'avez fait pleurer. Et c'est drôlement dur de pleurer quand on n'a qu'un seul œil, parce que de Tos est un des 4 bornes d'Hollywood. C'était pour ça d'ailleurs qu'on était intéressé de voir ces films, parce qu'il y avait Walsh, Lang, Preminger, Ford et de Tos. Le seul qui n'a d'ailleurs jamais dit comment il était devenu borgne. La seule phrase qui existe dans son autobiographie ou dans les interviews, c'est quand on lui pose la question, c'est « J'ai regardé par le mauvais trou de la serrure ». C'est une phrase qui reste assez énigmatique. Voilà. Donc, de Tos est un metteur en scène hongrois qui a commencé par une série de films en Hongrie. Et il y en a un qui a été montré cette année à Cannes Classique, très intéressant. « Deux filles dans la rue », qui est un film assez spectaculaire visuellement, avec pas mal d'audace formelle. Et même scénaristique, c'est un film qu'il avait écrit et réalisé. Il réalise d'ailleurs 6-7 films en 1939 en Hongrie, 38-39, des films vraiment qu'il enchaîne. Et lors du dernier film, son assistant metteur en scène, qui est quelqu'un qui deviendra metteur en scène en Hongrie, qui s'appelle Márton Keleti, lui dit, tu sais pourquoi tu arrives à tourner autant de films comme ça et à les enchaîner, c'est parce que tu n'es pas juif. Et il est frappé, tout d'un coup ça le frappe, c'est un choc pour lui. Il termine le film et la première chose, il abandonne tout ce qu'il a en Hongrie, prend le train et il part aux États-Unis où là il va commencer à vivoter parce qu'il avait pu rencontrer Korda. Alors là il y avait eu l'alliance de tous les Hongrois qui se retrouvaient et qui s'entraidaient là et qui va lui permettre d'abord de vivoter, puis il va être pris sous contrat à la Columbia pour faire un film en 7 jours qui des aventures de Lone Wolf, le loup solitaire, un film qui s'appelle Passeport to Suez. Et lui va commencer ce film qui doit être normalement n'est rien, il faut juste tourner en 7 jours. Et bien durant les 7 jours du film, il va sans cesse bouger la caméra, faire des mouvements de grue, inventer des plans, si bien qu'à un moment, il est au bout de 3 jours, il est en retard de 3 jours sur le plan de travail. Et Cohn lui dit ça et il dit il n'y a qu'une seule manière d'arriver à ce que je vous fasse le film dans le temps que vous voulez, c'est que vous changez mon contrat, lui dit De Tos. Et l'autre lui dit fils de pute, c'est le langage de Cohn, sors d'ici. Et il dit finalement j'ai terminé le film avec 7 jours de retard sur un budget, sur un plan de travail de 7 jours. Mais le film, du coup, il me dit néanmoins d'avoir tenu tête à Cohn, d'avoir fait ce film comme ça, 3 semaines après, je reçois un scénario que je n'aime pas du tout. Et là, après, je vous raconterai exactement, parce que personne mieux que De Tos peut le raconter, dans sa magnifique autobiographie qu'on avait fait publier, là, Fragment, à Actes Sud, Institut Lumière. Ce film est donc écrit en 1943. Le film, après, sortira en 1944. Mais le film est conçu vaguement fin 1942, écrit en 1943. Est un film qui part avec l'idée assez incroyable que les criminels de guerre nazis vont être jugés par les Nations Unies et par une cour internationale. Donc, et quand on dit que ce film est en effet inconnu et très rare, c'est vrai et c'est incompréhensible. Pourquoi un film aussi audacieux, aussi original, aussi bien mis en scène, le film est formidablement écrit et très bien dirigé par quelqu'un en plus qui avait l'expérience, qui savait, ce dont il parlait. De Tos s'était trouvé par la force des choses, embrigadé dans une production allemande, avec là et il le raconte très brièvement dans un chapitre là et il dit je ne comprenais pas ce qu'il voulait de moi, il y a quelque chose qui me paraissait très très douteux, c'était pour filmer les territoires allemands, enfin des Allemands, des Suédois qui étaient donnés à la Pologne, et il dit quelques jours après je l'ai compris, je n'avais plus besoin d'éclairage, je n'avais plus besoin de projecteurs, j'avais des incendies, j'avais des villes en feu, je pouvais. Et il m'a raconté, il m'a dit, voilà, j'ai dû filmer jusqu'au moment où je me suis enfui. Et il dit, c'est d'ailleurs la seule fois que je me suis enfui. Et il le dit, il me l'a dit une fois, il en dit, j'ai tué un homme pour m'enfuir. J'ai dû tuer quelqu'un. Et je suis. Et il rentre en Hongrie. Pratiquement, surtout à pied, il revient. Et il le disait, il le raconte aussi dans un documentaire que j'ai vu sur lui, en lui disant, il y a une scène, vous verrez qu'il y a une scène où on voit des gens filmer un faux camp de concentration, où on distribue du pain, quand la Croix-Rouge arrive, et dit, je l'ai vu ça, je l'ai filmé. On m'a demandé de le filmer. Donc je savais, et j'ai fait rajouter cette scène dans le scénario, parce que je l'avais vécu, mais j'ai résisté. Et moi, quand il me disait ça, je lui dis, mais comment vous avez, André, vous avez résisté ? J'ai tout filmé flou. J'ai jamais mis le point. donc, voilà, ce film, c'est au départ un film étrange. C'est pas un film B, c'est pas un film A, mais c'est un film, on amène ce sujet, et De Tos tout de suite sent qu'il y a un film formidable à faire. Il est dans une situation étrange, il est dans un, et il sera toujours comme ça. Il n'est pas sous contrat avec un studio, il est film par film. Il n'a jamais accepté des contrats de plusieurs années. Ce qui déjà le place dans une catégorie à part par rapport au metteur en scène américain. Parce qu'on sent qu'il devait avoir d'ailleurs un satané caractère, honnêtement. Et le film, le scénario du film est signé Lester Cole. Lester Cole est un des 10 d'Hollywood. Les gens qui seront, il sera au moment du McCarthy, il fera partie des 10 d'Hollywood, il ira faire de la prison. De Tos dit d'ailleurs que Lester Cole discute sa vision du film. Je pense qu'il se trompe, puisque dans l'autobiographie de Lester Cole, Lester Cole dit qu'il y a pratiquement un seul film de tous ceux que j'ai écrits à cette époque pour lequel j'ai de l'affection, c'est Nonchalant Escape, qui a été extrêmement bien filmé par André De Tos. Lequel De Tos crédite les deux auteurs de l'histoire plus que Lester Cole. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous lire un petit peu, c'est plus intéressant que moi, ce qu'il en dit, de cette histoire. Voilà, et Cohn le fait venir dans son bureau et lui dit « Vous aimez l'histoire ? Le script est nul. Je ne vous parle pas du scénario, j'ai demandé si vous aimiez l'histoire. Oui, j'aimerais tourner cette histoire, pas le scénario. Vous ne m'avez pas entendu, je vous parle de l'histoire, pas du script. Les auteurs de l'original sont dans votre bureau en ce moment. Revenez ici à 3 heures. » Cohn retourna à ses réunions comme si elles n'avaient jamais été interrompues. Pas de « au revoir » ou « tout à l'heure », je m'évaporais. Alfred Newman et Joseph Tan, les auteurs de l'histoire originale, étaient assis sur le bord du divan. Pas tout à fait assez long pour s'étendre. Ils se levèrent quand j'entrais. Le son émis par les ressorts du divan évoquait le son d'une guitare désaccordée. Le ressort du fauteuil d'aspect confortable n'avait pas d'ambition musicale. C'était des instruments chirurgicaux spécialement conçus pour la castration. Je m'assis sur le coin du bureau. Newman et Tan portaient le masque identique de tous les réfugiés, sourire doucereux et larmes à l'œil discrètes. Une supplication tacite. Leur masque se détendit au cours de notre conversation, mais ils restaient prudents. Je finis par leur faire dire qu'ils n'étaient pas satisfaits du scénario. Ils voyaient, ils ressentaient leur sujet, mais il manquait au script la compréhension des êtres humains avec lesquels Newman et Tan avaient vécu et à propos desquels ils écrivaient. C'était quelque chose que je désirais faire depuis le 1er septembre 1939. Nous étions en 1943. Le monde était à feu et à sang. C'était 2 ans et demi avant les procès de Nuremberg. Dans Nonchalant Escape, nous avons inventé un nom, Nations Unies, pour cet organisme asthmatique, essoufflé et impuissant qu'était la Société des Nations. Appellation utopique. Ceux d'entre nous qui avaient été brûlés par le feu et sanctifiés par le sang étaient avides de justice. Pas de vengeance. La vengeance n'engendrera jamais la justice. C'est un cercle vicieux. Justice ou vengeance, c'est un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec un des scénaristes. Mais vivant sur Hollywood Boulevard, comment pouvait-il être sensible à cela? Mais Harry Cohn, lui, l'était. Nonchalant Escape fut fait par souci de justice. Bien camouflé, croyait-il, derrière le rempart d'une grossièreté de surface, Harry Cohn possédait un cœur dont il avait honte. Il comprenait la nature humaine et en abusait parfois, mais dans les rares occasions où j'ai réussi à percer ses défenses, j'ai trouvé un être humain sensible, caché. Il serait mort plutôt que d'admettre qu'il m'avait compris, moi ou n'importe qui d'autre. Il ne cessait de vous mettre à l'épreuve, il voulait s'assurer que vous étiez sûr, que vous croyiez vraiment aux convictions que vous proclamiez. Il ne donnait pas de chèque en blanc, sa méfiance s'enracinait dans les profondeurs tranchées des déceptions et des blessures d'antan. Je les respectais, je l'aimais bien, il adorait les films. Il vivait pour le cinéma. Voilà un peu le ton du film. Et vous trouvez une partie de ce ton dans les dialogues du film. Il y a notamment une réplique, un échange de répliques formidable entre Marsha Hunt et Alexander Knox à un moment, quand Marsha Hunt vient le trouver et lui dire, l'institutrice de l'école, lui dire « Quand vous avez assisté à l'exécution, j'ai vu une larme dans votre œil. » Et Knox lui dit « C'était lequel ?» Et elle dit « Le gauche. » dit « C'était celui en vert ». Et elle dit « Je sais ». Pas mal. Je veux dire, la personne qui écrit ça, moi, j'ai du mal à comprendre qu'un film qui contient une scène comme ça soit inconnu. C'est que je me dis qu'il y a quelque chose qui est très bizarre. Alors, on vous l'a dit, c'est un film qui... Hollywood a été parfois très timide avec le rapport, l'antisémitisme en Allemagne. Ça a pris du temps, c'était difficile. Les metteurs en scène, on ne peut pas imaginer les luttes qu'ont dû mener certains metteurs en scène avec certains dirigeants de studio, pourtant juifs, à l'exception de Jack Warner, le premier à lancer le premier film anti-nazi, Confession of a Nazi Spy, par exemple, tous les scénarios parlant de l'Allemagne, de la métro Goldwyn-Mayer, étaient soumis par Louis B. Mayer au consul allemand qui était un nazi, pour avoir l'approbation. La plupart des studios américains continuaient à faire des affaires avec l'Allemagne jusqu'à Pearl Harbor. Et William Wyler a dû se battre pour que dans Mrs. Miniver, il y ait le personnage du nazi qui arrive dans la famille de Mrs. Miniver, est un type affreux et antipathique. Et il y a des mémos célèbres de Louis B. Mayer lui disant « Mais nous allons perdre nos ventes en Allemagne. » Et la réponse de Wyler, il dit « Si j'avais 40 personnages de nazis, je pourrais en humaniser un. » Mais vu que j'en ai qu'un dans le film, je ne vais pas m'amuser à l'humaniser. Voilà. C'est dans ce contexte que travaillent les cinéastes. Hein. Il ne faut pas oublier. C'est dans ce contexte que De Tos va faire ce film. Alors il prend aussi, quand Cohn l'accepte, le sujet, il lui dit, vous allez prendre bien sûr Paul Lucas. Paul Lucas est une vedette, c'est un acteur hongrois, c'est l'homme qui a signé les papiers permettant à De Tos de venir travailler aux États-Unis. Ça a été le protégé. De Tos dit non, il ne convient pas au rôle. Et De Tos dit, je veux Alexander Knox, qui est un acteur qui venait de voir au théâtre dans Les Trois Sœurs. Et il dit, c'est un acteur, voilà, c'est l'acteur que je veux. Harry Cohn appelle Alexander Knox, qui lui dit, mais je ne connais pas André De Tos, je veux être dirigé par Lewis Milestone. Et Cohn dit, espèce de connard, de salopard, et là je suis encore, j'atténue un peu le vocabulaire, tu as un metteur en scène qui risque sa carrière pour t'avoir, et toi, tu ne le veux pas, donc tu fais le film ou tu ne feras jamais un film à Hollywood. Et il se trouve avec Alexander Knox, et le premier jour de tournage, c'est un plan où Alexander Knox, son personnage, doit manger du caviar. Et quand il arrive, Knox dit, je veux du vrai caviar. De Tos dit très bien, et il va lui-même acheter une boîte très chère de près de 200 grammes de caviar. Et il dit je lui ai fait tout manger. Ça a pris 84 prises. Normalement, sur ces films, à partir de la prise 6 ou 7, il y avait une nervosité sur le plateau. À la prise 10, le producteur descendait pour savoir ce que vous alliez faire, et comme ça. Il dit, le lendemain matin, 84 prises, le lendemain matin, les gens étaient tellement persuadés que j'allais être viré, que quand j'arrive, mon nom avait déjà été effacé sur le parking et sur la porte de mon bureau. Il n'y avait plus mon nom. J'arrive, téléphone de Cohn à l'intérieur du plateau. Le téléphone dit... c'est Monsieur Cohn, il y avait une seule personne qui pouvait téléphoner à l'intérieur, sur le plateau, c'était le boss. Donc je voudrais, André De Tos, je vous veux dans la salle de projection. Et il dit, je finis le plan et je monte. Il arrive dans la salle de projection, Cohn lui dit, vous avez tourné 84 prises. Et vous avez choisi la 80e et la 82e. On va les projeter et vous allez me dire pourquoi. Et on projette deux prises, 82, 84 et De Tos. Ce ne sont pas les prises que j'ai choisies. Cohn avait fait changer les claps. Il avait coupé et il avait mis des premières prises à la place. Ce ne sont pas celles-là que j'ai choisies. Kohn le regarde et lui dit, vous pouvez terminer le film. Voilà. Voilà le... Et pour terminer, je vais vous lire le moment décisif du film. Le moment... voilà. C'est quand Deutos et ses deux scénaristes avaient décidé de mettre dans le jury international 4 latinos, 4 asiatiques et 4 noirs. Donc, voilà, c'était... tout d'un coup, on entend un coup de téléphone de Jack Kohn, le frère d'Harry, qui dirigeait la distribution à New York, et qui dit « 4 noirs dans un jury, dans un tribunal international, c'est impossible, on ne peut pas sortir le film dans le Sud. » Il faut voir à l'époque que les Noirs n'étaient pas autre chose que des domestiques. Il n'y avait pas de Noirs ayant un poste là. Or, vous aviez des Noirs qui représentaient des juges internationaux dans le film. Dans le silence soudain qui s'ensuivit, Harry Kohn me riva au mur de son regard marteau-pilon et répéta les questions que j'avais entendues mot pour mot et deux fois de suite. Quand il parlait doucement, il était dangereux. Maintenant, il chuchotait. Je ne dis rien. Après un silence très lourd de sens, il descendit de son trône, tourna le dos, parce qu'il est toujours sur un trône plus élevé que les autres, tourna le dos à la pièce et à moi pour regarder la circulation silencieuse de Crower Street. Son bureau était totalement insonorisé. Il ne voulait qu'aucun bruit ne vînt troubler ses déclarations. Ne nous appelions pas par nos prénoms dans nos discussions. Je lui donnais du Monsieur Kohn et il me traitait de tous les noms. Au bout d'un moment, j'essayais de détourner son attention de la circulation de Gorbachev. Monsieur Kohn, vous êtes encore là? Évidemment. Gros malin, non? Vous êtes célèbre pour votre courage, monsieur Kohn. Arrêtez votre connerie, dit-il sans se retourner. Un bon signe. Un jury international sans noir serait faire le jeu d'Hitler. Sale juif, bamboula, pédé, la discrimination, le racisme et le racisme. Il ne m'adressa pas un regard quand il remonta sur son trône. Appelez Jack. Je sais qu'il y a 3 heures de décalage. Il devrait savoir où il est allé déjeuner. Trouvez-le et dites à Sam Bishop, qui était le producteur du film, de venir le voir. Il raccrocha violemment. N'entendit aucun autre son jusqu'à l'arrivée de Sam Bishop. Kohn ne me congédia pas. Un bon signe. Il ne me dit pas de m'asseoir. Pas un bon signe. Avant même que Sam eût fermé la porte, Kohn le prit à partie. Je commençais à compter les coups sur mon boulier mental. Kohn s'adressait à Sam. M'avait appelé votre réalisateur, ce n'était pas un mauvais signe. Votre réalisateur est devenu dingue, il veut mettre des noirs dans le jury. Qu'est-ce que vous en pensez, Sam? Sam était un vieux renard d'Hollywood. Laissez-moi réfléchir, Harry. Nous restâmes tous trois silencieux pendant que Sam réfléchissait. Combien, demanda Sam, sans s'adresser à personne en particulier. 4. 4 noirs au jury des Nations Unies. Pas de réaction de Sam. Il baissa le menton et se replongea dans un silence méditatif. 4, marmonna-t-il au bout d'un moment. 4, ça va me ruiner. Le Sud. Kohn prit le téléphone. D'une voix assez forte pour être entendue de New York, il demanda « Qu'est-ce que ?» et s'interrompit. Toute évidence, l'opératrice avait anticipé sa question. Il écouta, raccrocha violemment et explosa. « Mon connard de frère, il n'a pas dit où il allait déjeuner. J'espère qu'il s'étouffera. » Sam, calme comme toujours, quand il n'y avait pas de dame présente, me demanda « Vous en voulez 4, hein ?» Oui, au moins. Au moins, hurla Kohn de toute la force. J'ai une idée, Harry. Sam claqua des doigts comme si l'idée lui était venue à l'instant. Mettons-en 2. Ils se verront moins. Le téléphone sonna. Qu'est-ce que tu foutais? Demanda Kohn à son frère sans attendre la réponse. Un déjeuner de 2 heures. Merde, pas étonnant que les affaires marchent mal. Tu as vu mes résultats? Écoute, Jack, ce dingue de metteur en scène de Sam veut 6 noirs dans le jury. Quel jury? Kohn secoua la tête d'un air dégoûté, éleva encore plus la voix. Le jury des Nations Unies dans Nunchal Escape. Ne m'interromps pas, ne parle pas du Sud. Ouais, je connais le Sud, je suis d'accord. Kohn se tourna vers Sam et moi. Pas de noir compris. Mon boulier craqua, mon cœur se serra. C'était la fin de mon premier grand rêve hollywoodien. Désolé, Sam, je laisse tomber. Il me tapota l'avant-bras. Calmez-vous, réfléchissons. Kohn ne s'occupait pas de nous. Il s'employait au téléphone à agonir son frère Jack. T'es un vendeur, non, bordel, remue-toi un peu, ne prends pas 2 heures pour déjeuner. T'arrives trop tard, je leur ai dit qu'ils peuvent en avoir un. Rien qu'un de noir. Je n'y pensais pas sur le moment, là dans le bureau d'Harry Cohn, mais je me suis toujours demandé depuis s'il se rendait compte que la présence d'un seul noir renforçait mon propos. Voilà l'histoire.